Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat, édifiant et reposant. Nous lisons dans Daniel chapitre 2 et le verset 19, je n'y m'y rapporte pas. Daniel chapitre 2 et le verset 19, je lis la version rabbinat. Alors le mystère fut dévoilé à Daniel dans une vision nocturne, et Daniel bénit le Dieu du ciel. Dans le second, c'est marqué, le secret fut révélé. Le contexte est un contexte prophétique. Et dans le Nouveau Testament, nous avons aussi un verset qui parle, qui utilise le mot mystère. Nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 51, je lis, je ne m'y rapporte pas non plus. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Le mot en grec veut dire une chose cachée ou un secret. Le sens du mot rejoint ce que nous venons de lire dans Daniel, et de nouveau, c'est un contexte prophétique. Le secret fut révélé. Et la révélation vient de Dieu. C'est notre conviction absolue dans l'Église que la Bible représente la parole de Dieu. C'est en définitive la révélation de notre Créateur à l'humanité. La révélation de notre Créateur à l'humanité, y compris la signification de la prophétie. Y compris la signification de la prophétie. Et nous savons aussi que la prophétie constitue une partie importante de la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 1, est le verset 1. Nous savons que l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, contient beaucoup de prophéties, surtout pour l'époque de la fin. Apocalypse chapitre 1, verset 1, nous lisons « Révélation donc, de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Le mot révélation vient du mot grec apocalypsis que nous voyons traduit en français par révélation. Et effectivement, ce mot signifie divulgation ou révélation. C'est un dévoilement et donc ça traduit l'idée de dévoiler ou de découvrir. Nous voyons aussi nous venons de lire dans le verset 1 que c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est donc Dieu qui a donné. Et nous savons que littéralement l'Écriture est insufflée de Dieu. C'est sa parole inspirée. Et bien que Dieu l'ait inspirée à des êtres humains, son message reflète entièrement la pensée divine. La prophétie, par voie des conséquences, est à mettre dans ce contexte. Quelque chose donné par Dieu, révélé par Jésus-Christ pour ses serviteurs, pour notre bien. Le Christ apporte des informations que son Père lui a données, que son Père lui a révélées. Et se rejoint ce que nous trouvons, ce que nous lisons dans Jean chapitre 8 et le verset 26. Jean chapitre 8 et le verset 26. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé, donc Dieu le Père, est vrai. Mais ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le Christ a transmis les informations en provenance de son Père. Mais c'est la même chose que nous trouvons ici dans Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Dieu a donné, Dieu a révélé les prophéties dans un but. Il a révélé, il nous a donné ceci pour notre bien, pour nous aider, pour que nous puissions comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer, et que nous puissions, et pour que nous puissions nous préparer en fonction des événements à l'avenir. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler donc de la prophétie, et le titre de ce sermon, c'est les bénédictions de la prophétie. Les bénédictions de la prophétie. Nous ne pensons pas forcément que les prophéties sont, pour ainsi dire, une bénédiction, mais elles le sont. C'est ce que nous allons voir au cours de ce sermon. 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 10. Nous avons un contexte ici où il est question de prophétie. 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. On parle donc de la grâce à l'avenir, quand ils ont donné ces prophéties. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque, cette époque future, et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance, donc c'est une prophétie, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, cet avenir magnifique. Après, il leur fut révélé, donc une révélation, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Les prophètes ont parlé de l'avenir, verset 13, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. » Donc, notre responsabilité en tant que chrétien, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, sera apportée. C'est notre avenir, c'est le futur. 2 Pierre chapitre 1 aussi parle de la prophétie. 2 Pierre, chapitre 1, et nous allons commencer à lire dans le verset 19. C'est toute cette section à partir du verset 16 qui parle de la fiabilité de la parole prophétique. Verset 19, 2 Pierre, chapitre 1, et le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. C'est quelque chose qui va se réaliser, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Dieu a donné les prophéties, Dieu a révélé les prophéties, et à nous, donc, de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, jusqu'au retour du Christ. Et les prophéties nous permettent de rester conscients de ce que Dieu a réservé à ses disciples, à ses saints, Il ne faut pas que nous courions le risque de restituer une image qui n'est pas exacte, qui est inexacte de son plan pour nous. Nous devrions toujours vouloir garder une vision claire dans nos esprits. Et le fait, parce que là on peut parler de visionnaire, le fait d'être chrétien ne se limite pas à être uniquement visionnaire, mais il s'agit du vrai type de visionnaire, et la Bible nous montre comment. Notre cheminement va se terminer quand nous ferons partie de cet avenir merveilleux. Et la fin du récit révèle que les visionnaires de Dieu, qui ont la bonne vision, grâce entre autres aux prophéties, vont régner avec lui pour l'éternité, étant des porteurs de lumière et guérissant ce monde qui a tant besoin d'être guéri. Nous lisons aussi, nous venons de lire dans le verset 19, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Une lampe éclaire. Ça nous permet de ne pas marcher dans les ténèbres. Et ce monde est dans les ténèbres. Ça nous avertit. Ça éclaire même, une lampe éclaire les alentours. Et nous pouvons comprendre, donc, les événements déjà qui se passent actuellement et aussi l'avenir quand nous restons proches de Dieu. Nous lisons dans Psaume, je ne m'y rapporte pas, Psaume chapitre 119 et le verset 105, Psaume 119 et le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous guide pour avancer dans les ténèbres. Nous devrions avoir nos yeux fixés sur l'avenir. L'avenir, par exemple, que les héros de la foi ont contemplé, même à travers les plus dures épreuves et dans le moment les plus difficiles. Verset 20, je suis toujours de Pierre chapitre 1 et le verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De la part de Dieu rejoint ce que nous venons de voir dans Apocalypse. L'avenir dans notre monde est incertain, mais Dieu nous appelle pour être des visionnaires capables d'imaginer l'avenir et de s'engager dans sa voie et le moment venu d'aider le monde. Mais nous avons besoin d'une vision claire. Quand nous étudions notre Bible lors de la fête des trompettes, nous pouvons constater qu'il y a deux aspects de la fête des trompettes. Il y a beaucoup de passages dans Apocalypse qui parlent de l'avenir, qui parlent des événements dramatiques qui précèdent le retour du Christ, et avec la souffrance des êtres humains, ça c'est un aspect, mais il y a aussi l'autre aspect, c'est le retour du Christ, le retour de Jésus-Christ qui va apporter la paix sur cette terre. Et si nous regardons du point de vue séculaire et que nous mettons ceci en parallèle avec ce que nous connaissons à propos des prophéties, nous constatons que l'homme, point de vue séculaire, que l'homme gère mal notre planète. Et que notre planète, on en parle de plus en plus, notre planète est en danger. J'ai voulu partager avec vous des informations que j'ai prises de Science Post C'est un magazine d'actualité et de vulgarisation scientifique, des articles captivants sur les sciences, les découvertes et les innovations. Et c'est un site qui est évalué comme fiable. Et j'ai voulu donc vous donner des informations que j'ai retenues d'un article Science Post du 3 octobre 2024, donc tout récent. Je lis ces limites, en parlant de certaines limites, déterminent les conditions dans lesquelles l'humanité peut continuer à prospérer dans un environnement stable et habitable. Mais cependant, sous l'effet de l'activité humaine, 6, parce qu'on parle de 9 limites, 6 de ces 9 limites ont déjà été franchies. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle menace, c'est l'acidification des océans. C'est la 7e limite planétaire. Et, bien sûr, ce genre d'événement risque de pousser le monde vers un point de non-retour. Le terme scientifique qui est utilisé, c'est limite planétaire. Des seuils écologiques. Limite planétaire, des seuils écologiques. Il y en a 9 en tout. C'est un cadre pour la survie de l'humanité et ces 9 limites planétaires étaient définies en 2009 par des chercheurs internationaux. Ce sont des seuils écologiques qui encadrent le processus vitaux pour la stabilité de la Terre. L'article précise, à ce jour, 6 des 9 limites ont déjà été largement franchies. Si ces limites sont dépassées, les conditions de vie sous Terre et sur Terre deviennent de plus en plus imprévisibles, entraînant des crises environnementales majeures. Et là, on parle de plusieurs domaines où il y a des problèmes. On parle du climat, le changement climatique. La concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a provoqué une hausse des températures mondiales sans précédent. On parle de la perte de biodiversité. L'extinction massive des espèces perturbe les écosystèmes vitaux à une échelle mondiale. On parle de la déforestation. La perte rapide des forêts tropicales réduit la capacité de la planète à absorber le carbone et affecte les cycles hydrologiques. J'ai justement à ce sujet un autre article en provenance des échos, publié en 2021. Mois de juillet 2021, qui dit que le poumon vert, déjà en 2021, le poumon vert de la planète peine à respirer. Et selon une étude publiée mercredi dans la revue Nature, donc déjà 2021, une grande partie du bassin de l'Amazonie est désormais émettrice de carbone. Le monde à l'envers pour cet écosystème crucial pour la lutte contre le réchauffement de la planète. On mentionne également la pollution chimique, la prolifération des substances chimiques, y compris les plastiques et autres produits synthétiques, altèrent les sols et les écosystèmes, et le cycle de l'azote. Les pratiques agricoles ont fortement déséquilibré le cycle de l'azote, provoquant des désastres écologiques tels que la prolifération d'algues toxiques. On parle également de la raréfaction de l'eau douce. La surexploitation des ressources en eau douce menace l'approvisionnement pour des millions de personnes à travers le monde. Donc l'impact de ces dépassements s'accumule, c'est ce que l'article dit, qui rendent chaque limite interconnectée avec les autres, l'acidification des océans, la septième limite, en est un nouvel exemple préoccupant. Et si je vous parle de tout ceci, c'est que déjà sur un plan séculaire, nous voyons qu'il y a de grands problèmes. Et nous comprenons, étant donné que nous connaissons les prophéties, nous comprenons pourquoi il faut que le Christ revienne, pour sauver l'humanité d'elle-même. Bien sûr, nous ne sommes pas indifférents à ce que nous voyons autour de nous, à ce qui se passe dans le monde, y compris dans ce domaine, mais Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur de l'avenir, parce que les prophéties sont une immense bénédiction. Revenons, si vous voulez bien, à Apocalypse. Nous avons vu tout à l'heure Apocalypse chapitre 1 et le verset 1. Nous avons vu que Dieu a donné ses prophéties. Dieu est un Dieu qui donne. Et nous avons vu ce qui se passe dans notre monde actuel. Nous savons aussi une grande partie de l'Apocalypse à voir avec la fin du règne des hommes, le système défaillant, le système qui va arriver au bout du souffle, qui arrive progressivement au bout du souffle. Je relis le verset 1 pour situer le contexte. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. La parole de Dieu, c'est ce que nous avons à notre disposition et ce que nous comprenons. Verset 3. Et peut-être que vous n'avez jamais remarqué le verset 3 avant. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, ce qui est donc dans l'Apocalypse, et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux, nous avons l'opportunité de lire ce qui est dans l'Apocalypse et d'entendre aussi ce qui est dans l'Apocalypse. Et la Bible dit aussi, heureux ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Il y a des consignes qui sont données. Le mot heureux, c'est le mot grec makarios, traduit par béni ou heureux. Et c'est le même mot que ce que nous trouvons dans les béatitudes. En français, c'est marqué heureux les pauvres, en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires. Dans la traduction anglaise, c'est marqué blessed, béni. Ce que nous venons de lire dans le verset 3 rejoint ce que nous lisons aussi dans Apocalypse, toujours Apocalypse, chapitre 22 et le verset 7. Apocalypse 22, verset 7. Je m'y rapporte pas non plus. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Le Christ veut que nous fassions quelque chose avec ces informations qu'il nous a données, qu'il nous a révélées. Et les instructions données par Christ dans ses lettres aux sept églises, ainsi que dans le restant du livre, contiennent autant de rappels à rester fidèles et obéissants à Dieu, quelle que soit la situation. Et entre autres, nous voyons aussi dans Apocalypse le fait de garder qu'il faut garder les commandements de Dieu. Apocalypse chapitre 12. Il est question, dans l'Apocalypse, de renoncer aux voies de ce monde, qui sont caractérisées par Babylone. Ça, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 18. De ne jamais, aussi, il est question de ne jamais transiger avec l'obéissance et la fidélité à Dieu, que nous trouvons dans Apocalypse, chapitre 20. Le Christ révèle à ses serviteurs ce qui va se produire avant son retour pour instaurer le royaume de Dieu, et ce faisant, il nous rappelle ce que nous devons faire pour y être admis, ce que nous devrions faire pour être admis. Du reste, dans Apocalypse, il y a beaucoup de bénédictions qui sont mentionnées. Et ça, c'est mon premier point. Le titre donc du sermon, c'était « Les bénédictions de la prophétie ». Ici, c'est un premier point, les bénédictions mentionnées dans Apocalypse. Il y a plusieurs passages dans Apocalypse, donc associés avec des bénédictions. C'est ce que nous venons de voir dans Apocalypse 1, verset 3, et Apocalypse 22, verset 7. Nous savons qu'Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3 parlent des sept époques de l'Église, et ces sept époques de l'Église, pour ceux qui vainquent, mentionnent de très belles récompenses. De très belles récompenses pour chacune des sept époques de l'Église. Dieu est amour, Dieu est généreux, et Dieu va donner la vie éternelle à son peuple qui auront persévéré, qui auront vaincu dans cette vie. Ce sont d'énormes bénédictions, des bénédictions sur le plan humain inimaginables. Il y a aussi d'autres bénédictions. Apocalypse parle des 144 000 avec leur récompense, parle de la grande foule avec leur récompense. La Bible, l'Apocalypse parle de si nous n'avons pas la marque de la bête, nous n'allons pas subir la colère de Dieu. Et à partir du chapitre 19, nous voyons la splendeur, la grandeur des bénédictions de Dieu. Nous voyons la générosité de Dieu pour son peuple. Nous voyons dans le chapitre 19 les noces de l'agneau qui sont mentionnées, avec son épouse qui s'est préparée. Là, de nouveau, nous avons le mot « heureux ». Dans Apocalypse chapitre 19, verset 9, le mot « heureux » qui est précisé. Dans chapitre 20, il est question de la première résurrection, et de nouveau, nous trouvons le mot « heureux », chapitre 20, dans le verset 6. Chapitre 21, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre, avec la nouvelle Jérusalem qui est mentionnée, avec une dimension qui nous dépasse en tant qu'être humain. Le verset 4 nous précise que Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ce dont l'humanité souffre maintenant, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et dans le chapitre 22, nous avons un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Dans le verset 14, toujours chapitre 22, il est précisé de nouveau, « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Il n'y aura que des enfants de Dieu. » C'est cela aussi les bénédictions d'Apocalypse. J'ai voulu vous parler de Daniel. Daniel était un prophète et nous voyons dans le livre de Daniel sa réaction face à certaines prophéties. Il était affecté, il a réagi, il était affecté émotionnellement. Par exemple, quand Dieu avait révélé ce qui allait se passer à Nabucodonosor, et je cite, ça c'est Daniel chapitre 4, verset 19, j'y me rapporte pas, Daniel chapitre 4, verset 19. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Daniel était affecté par cette prophétie. Daniel chapitre 7, dans Daniel chapitre 7, il est question de quatre animaux. Daniel chapitre 7 et le verset 15, nous lisons ceci. Moi, Daniel, une fois donc il avait vu cette prophétie, moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Verset 28. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Il était profondément touché par ce qu'il avait compris, par cette prophétie. Mais Dieu est aussi rassurant, nous voyons dans le verset 18, les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Il y a le verset 22, il y a le verset 27, la reine, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ça, c'est la fin de l'histoire. Une fin incroyablement encourageante. Une très, très grande bénédiction. Et quand nous voyons la fin de Daniel, le dernier chapitre de Daniel, nous voyons aussi un langage qui est extrêmement encourageant. C'est la fin donc de ces prophéties de Daniel, chapitre 12 et le verset 1. Il y a des événements qui sont dramatiques, mais en même temps, il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de certitude, et nous voyons comme ça se termine aussi, le chapitre 12. Verset 1, pour commencer, chapitre 12, Daniel chapitre 12, verset 1. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Un grand défenseur de ton peuple. « Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie, seront sauvés. » C'est une certitude, c'est une promesse de la part de Dieu. C'est une prophétie pour l'avenir, c'est une bénédiction. Verset 2. Le verset 2 continue avec une prophétie en ce qui concerne, dans un premier temps, les saints. Plusieurs de ceux qui dorment, quand nous mourons, nous dormons tous jusqu'à la résurrection. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les saints, les prophètes, ceux qui ont le Saint-Esprit, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, donc plus tard. Le verset 3 parle d'un avenir magnifique, une bénédiction époustouflante. Verset 3, ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. On ne peut pas imaginer une plus grande bénédiction. Un avenir magnifique. Verset 12 emploie le mot heureux de nouveau. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours, celui qui va persévérer dans cette voie, la voie de Dieu. Verset 13, ce qui était précisé à Daniel, verset 13, et toi marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Tout comme Daniel, si nous persévérons jusqu'à la fin, si nous avons le Saint-Esprit, nous serons aussi debout pour notre héritage à la fin des jours. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, et nous pouvons être confiants. Nous pouvons voir l'avenir avec sérénité. Et c'est mon deuxième point dans ce sermon, le fait d'envisager la réalité, l'avenir que Dieu nous promet. Et donc, la bénédiction de pouvoir faire face avec à la vie, à l'avenir, avec plus de sérénité et de pouvoir se préparer. Ça, c'est donc le deuxième point d'envisager la réalité et l'avenir avec plus de sérénité. La bénédiction de ne pas être pris au dépourvu, parce que nous savons ce qui va se passer et nous pouvons nous préparer. Le troisième point que j'ai voulu, troisième bénédiction que j'ai voulu souligner, troisième bénédiction de la prophétie, c'est que la prophétie nous donne une vision de l'avenir, un aperçu de l'avenir. Nous n'allons pas forcément comprendre tous les détails de toutes les prophéties, mais nous comprenons les grandes lignes. Et ça nous donne une vision. Proverbes chapitre 29 et le verset 18. Proverbes chapitre 29 et le verset 18. Je lis ceci dans la version Rabina. Faute de révélation prophétique, le peuple s'abandonne au désordre. Mais heureux s'il observe la loi. La version Shoraki dit ceci, sans vision, le peuple se détraque. Sans vision, le peuple se détraque. Et nous avons une vision de l'avenir. Et ça nous aide pour que nos vies ne se détraquent. Ça nous aide, ça nous permet de ne pas s'abandonner au désordre. Nous voyons beaucoup de désordre dans le monde maintenant. Et ça nous permet d'avoir un ancre, d'être stable. De continuer à observer la loi, de rester sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et chaque année, nous avons la possibilité de s'imprégner de cette vision de l'avenir à la fête des tabernacles avec une fraternisation riche et une fraternisation abondante et avec des messages qui nous parlent de l'avenir pour que nous ayons justement cette vision devant nous, devant nos yeux. La vision de l'époque, quand il n'y aura pas de souffrance aussi, quand il n'y aura pas de larmes et quand il n'y aura pas de peine. Ça, c'est le troisième, une troisième bénédiction que la prophétie nous donne. Il nous donne une vision de l'avenir, un aperçu. Et cette vision guide nos vies, nous empêche de s'égarer dans la vie. Il y a beaucoup de passages sur le premier événement du Christ, mais il y a aussi beaucoup, comme nous le savons, sur le deuxième événement du Christ. Et les psaumes de David, ne serait-ce que les psaumes de David, contiennent des prophéties sur le premier événement du Messie et sur son second événement, au temps de la fin, lorsqu'il viendra instaurer le royaume de Dieu ici-bas. J'ai voulu vous donner deux références, d'abord dans Psaume chapitre 22, qui est un psaume de David, Psaume chapitre 22 et le verset 28. Verset 28. « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. » C'est donc l'avenir. C'est l'avenir auquel nous aspirons. Verset 28. « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. » À l'avenir. « Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. » Et probablement, vous n'avez pas besoin de tourner la page dans le chapitre 24, toujours psaume de David, psaume 24, verset 9. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Voilà le roi de gloire. Il va revenir dans sa gloire. Le Christ va revenir dans sa gloire. Il y a une quatrième bénédiction dont j'ai voulu vous parler. Bénédiction donc de la prophétie. C'est le fait que ça augmente notre confiance en Dieu. Ça augmente notre confiance en Dieu quand nous voyons les prophéties s'accomplir. Et nous voyons bien qu'actuellement, la situation géopolitique dans le monde est en pleine ébullition. Les choses que nous pensions être stables ne sont plus aussi stables et la situation est en train de changer pour que justement les prophéties se réalisent. C'est Dieu qui a prédit l'avenir et nous allons voir de plus en plus la réalisation de ce que Dieu a prédit. Nous allons constater à l'avenir, si nous restons vivants, la puissance de l'Europe. Un changement très important, nous allons en être témoin. Actes chapitre 5 et le verset 29. Actes chapitre 5 et le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, face donc au Sanhédrin, face au souverain sacrificateur, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes, verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ils étaient témoins. Ils étaient témoins de l'arrivée du Messie sur cette terre. Ils étaient sûrs. Ils ont vu. Ils avaient été des témoins de l'accomplissement de beaucoup de prophéties à propos
du Messie qui est venu sur terre. Actes chapitre 4 et le verset 13.
Actes chapitre 4 et le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.
C'était aussi face au souverain sacrificateur et au Sanhédrin. Et ils ont vu leur assurance. Pour cause, parce qu'ils ont vu des prophéties, bon nombre de prophéties, qui se sont accomplies dans la personne de Jésus-Christ. Et bien sûr, cela a augmenté énormément leur confiance en Dieu. Nous aussi, nous pouvons être témoins des événements prophétiques qui se réalisent et nous pouvons connaître la bénédiction d'avoir notre confiance en Dieu augmentée. C'est une quatrième raison pour laquelle les prophéties sont une bénédiction. Du reste, les prophéties bibliques nous démontrent la puissance de Dieu. Il est toujours vainqueur et cela nous encourage. Il y a une cinquième raison que j'ai voulu évoquer dans ce sermon. La cinquième bénédiction, une cinquième bénédiction de la prophétie, c'est que nous voyons l'immense amour de Dieu, son immense miséricorde face aux êtres humains. Nous voyons déjà que Dieu va pardonner, d'après les prophéties, que Dieu va pardonner à son peuple. Il va les traiter avec beaucoup de bienveillance. Il va les bénir. Il y a une phrase magnifique que nous trouvons à la fin, la deuxième partie de Jérémie chapitre 31 et le verset 34. Je ne m'y rapporte pas. Jérémie 31 et le verset 34. Car je pardonnerai leur iniquité. Et je ne me souviendrai plus de leur péché. Dieu est un Dieu qui pardonne. Et il y a des prophéties, comme ici dans Jérémie, qui démontrent à quel point Dieu va pardonner. Il y a aussi des prophéties qu'on peut appeler des prophéties conditionnelles. Il y a des prophéties qui vont se réaliser. Il y en a d'autres qui sont conditionnels en fonction du comportement des êtres humains. Nous savons que d'une façon générale, l'homme s'est détourné de son Créateur. Mais regardons Ézéchiel chapitre 18 et le verset 10. S'il a un fils, celui qui est juste, qui soit violent, qui reprend le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père. Et ensuite, la Bible donne un certain nombre de comportements qui ne sont pas bons, qui ne sont pas bibliques. Et à ce moment-là, nous lisons dans le verset 13, « Il ne vivra pas, il ne vivra pas parce que il y a la justice de Dieu et chaque individu est responsable pour lui-même. » Mais regardons le verset 14. Le verset 14, « Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés qu'il commet son père, qu'il les voit et qu'il n'agisse pas de la même manière. » Et dans les versets suivants, nous voyons les si qui reviennent, si je puis dire. Verset 15, « Si ce fils ne mange pas sur les montagnes, Verset 16, si n'opprime personne. Verset 17, si détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois. Qu'est-ce que Dieu a prophétisé à propos de quelqu'un qui se comporte de cette façon? Toujours le verset 17. Celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. L'exemple de Manassé, un roi extrêmement méchant, mais qui se repentit, illustre à quel point Dieu est miséricordieux. Et nous voyons l'immense amour de Dieu dans la Bible et dans les prophéties. Nous voyons donc des prophéties inconditionnelles, mais nous voyons aussi, comme nous venons de voir, des prophéties conditionnelles qui dépendent d'un si. Et nous pouvons également bénéficier, si je puis dire, de ces prophéties conditionnelles. C'est ce que nous voyons, entre autres, dans le psaume chapitre 1. Le psaume chapitre 1, qu'est-ce qui va arriver, verset 1, qu'est-ce qui va arriver à l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants? Verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si quelqu'un respecte la loi et en plus aime cette loi profondément, verset 2, mais qui prouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le mérite jour et nuit, nous avons dans le verset 3, toujours chapitre 1, une prophétie conditionnelle. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Et nous avons, nous, l'occasion d'être comme un arbre planté près d'un courant d'eau avec toutes les conséquences qui sont décrites ici dans ce verset. Il est possible de regarder les prophéties comme des ennemis. Mais nous pouvons aussi faire en sorte qu'elles soient notre allié, de voir ce qu'elles nous apportent, de les voir comme des bénédictions. Connaître les événements à l'avance pour pouvoir nous préparer, en connaissant les prophéties, nous pouvons construire nos vies et récolter des bénédictions. Le fait de les connaître est quelque chose d'extrêmement positive. Et en restant proche de Dieu, nous pouvons compter sur son aide. À nous de veiller pour que la connaissance des prophéties soit une bénédiction.